Chacun de nous est un soleil et il a son soleil. Vous êtes un soleil. Bienvenue dans le nouveau paradigme, bienvenue dans l'ère du Verseau. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans À chacun son soleil. J'espère que vous allez tous très bien. Il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière afin de laisser place à notre vidéo de l'ère du temps astrologique. Mais donc aujourd'hui, on va suivre un petit peu le fil de cette vidéo qui donnait une perspective depuis le solstice d'hiver et depuis l'équinoxe de printemps. Donc très naturellement, j'avais envie de vous parler un peu des solstices et des équinoxes justement. On va donc dans cet épisode faire le point astronomiquement et surtout astrologiquement de ces quatre temps forts de l'année. Et pour cela, nous passerons par la compréhension symbolique de la croix cardinale, je vous expliquerai tout ça, et nous ferons un petit zoom sur le premier signe zodiacal annonciateur du printemps, qu'est le bélier. Pour ce faire, j'aurai le plaisir d'accueillir tout à l'heure Marilène Serra, qui est justement en train de monter les cours de perfectionnement sur les archétypes, donc je me suis dit que ça tombait tout à fait à propos. Avant cela, comme toujours, si vous appréciez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de lui mettre 5 belles étoiles afin de soutenir la visibilité de notre travail. Allez, place à l'épisode! Avant d'entrer donc dans la lecture symbolique des solstices et des équinoxes, je vous propose de refaire un petit point astronomique, scientifique, de ce phénomène qui est connu depuis la nuit des temps. Rassurez-vous, ça va être très simple. Ce que je vous conseille, c'est de trouver une représentation visuelle du phénomène. Donc pour cela, je vous ai mis quelques schémas dans l'article qui est lié à l'épisode. Vous pouvez de la même manière aller chercher très simplement sur YouTube, par exemple, des vidéos qui expliquent très bien, et certainement beaucoup mieux que moi, le déroulé scientifique des solstices et des équinoxes. Ici, on va quand même repréciser simplement que ces phénomènes, ces quatre temps forts de l'année, sont dus au fait que l'axe de la Terre est légèrement incliné. Par conséquent, si on se situe dans l'hémisphère nord, qui est l'hémisphère depuis lequel je vous parle, il y a des moments de l'année où les rayons du soleil vont frapper la Terre plus longtemps et d'autres moments où elle va les frapper moins longtemps. Au moment du solstice d'hiver, quand le soleil entre à 0 degré Capricorne, ça annonce évidemment la saison de l'hiver, comme son nom l'indique, c'est le moment où les nuits sont maximales. Mais ce qui est intéressant pour la suite symbolique, c'est que si les nuits sont maximales, eh bien cela marque aussi le temps où les jours vont recommencer à croître. Le solstice d'été, quant à lui, c'est une sorte de zénith de l'année. Avec cette saison d'été, quand le soleil entre à 0 degré Cancer, à ce moment-là, les jours sont maximum. Si on regarde les équinoxes, maintenant, elles sont assez intéressantes puisque cela marque des points d'équilibre, des moments où les jours sont exactement égaux aux nuits. L'équinoxe de printemps a lieu quand le soleil entre à 0 degré Bélier. L'équinoxe d'automne a lieu au moment où le soleil entre à 0 degré Balance. En termes de date, pour cette année 2022, on va considérer le solstice d'hiver qui a eu lieu le 21 décembre 2021, puis l'équinoxe de printemps qui a lieu cette année le 20 mars 2022, le solstice d'été quant à lui a lieu le 21 juin 2022 et l'équinoxe d'automne aura lieu le 23 septembre 2022. Voilà, on va donc rester sur une lecture comme ça, assez simple au niveau scientifique, mais pour pouvoir se faire plaisir sur la symbolique. Et donc sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir Marilène Serra. Salut Marilène.
Salut Faustine.
Je te remercie de me rejoindre partager cet épisode. Est-ce que tiens déjà, spontanément, il y a quelque chose qui te vient après cette très modeste présentation des solstices et des équinoxes ?
Pour moi, c'est vraiment comme des portes. Et à mon avis, c'est pas pour rien que dans ces moments-là, il y avait des fêtes qu'on appelle païennes, mais qui étaient en fait des fêtes sacrées qui fêtait ces instants très particuliers de l'année. Et c'est intéressant parce que du coup, c'est sur cette croix cardinale qui nous parle aussi quand même d'un, enfin, entre autres choses, d'une impulsion, d'un mouvement, de quelque chose qui, hop, se met en route et se met à agir dans le monde quelque part. Donc, c'est assez intéressant qu'on retrouve quand même ces quatre portes sur cette croix-là, qui n'est pas anodine du tout.
Et puis, je trouve que tu as eu raison de rappeler que ces quatre temps forts de l'année, effectivement, ils sont célébrés par l'humanité depuis qu'il y a humanité, finalement. Le solstice d'hiver, notamment. Et d'ailleurs, il y a plein de d'architecture ancienne, païenne, qui marque en fait ce rapport des solstices, des équinoxes, etc. L'architecture ancienne est construite beaucoup comme ça.
Oui, puis je crois que ça nous remet aussi, tu vois, pour moi, ça parle de la notion du temps, où je pense que dans nos sociétés, on n'est pas sur le bon temps, puisque notre année, elle commence le 1er janvier, alors que ce serait pour moi évident que ce soit le 21 décembre, enfin, ou le 21 mars, mais à une des portes, en fait, ça serait bien plus logique. On n'est pas sur, comment dire, on n'est pas en respect des rythmes de lunaison ni du soleil. Donc, en fait, on est complètement décalé par rapport au cycle naturel. Et du coup, garder le côté particulier de ces moments-là, pour moi, c'est se relier à un temps qui est un temps réel.
Qui est le temps de la Terre et le temps du ciel, en fait.
Voilà, qui est le temps de notre Terre, du monde, quoi.
Ce que le calendrier révolutionnaire avait essayé de remettre en place, d'ailleurs.
Oui.
Alors, si on entre un peu plus, là, du coup, dans la symbolique, peut-être repréciser ce que ça signifie, ce fameux solstice d'hiver, solstice d'été. Le solstice d'hiver, j'aime bien l'expression qu'avaient les Romains. Ils disaient que ce moment du solstice d'hiver, ils appelaient ça le soleil invaincu, sol invictus. Donc, vraiment pour signifier ce passage qui est le retour du soleil au milieu des ténèbres, en quelque sorte.
On peut voir aussi qu'ils avaient des fêtes qu'ils appelaient les Saturnales, qui étaient au moment du solstice, donc un peu avant, un peu après. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'appelle les Saturnales, que c'est des fêtes en hommage à Saturne, et Saturne est premier maître du Capricorne. Et le solstice a lieu à 0 degré du Capricorne, enfin celui d'hiver. Donc voilà, on trouve quand même des parallèles intéressants, et on retrouve de la symbolique qui revient par petites touches.
Oui, ils étaient assez raccords, hein, de toute manière, par rapport à ces temps de l'année. Et donc, le solstice d'hiver, c'est ce moment où les nuits sont maximales, mais à partir du solstice d'hiver, ça rebascule, la lumière va remonter, on va regagner en jour, en lumière, en fait, tout simplement. Et le solstice d'été, c'est comme qu'est-ce qu'on pourrait dire, un maximum, un zénith de l'année où le soleil va commencer à décroître.
On est vraiment au solstice d'hiver. Là, c'est le soleil qui est caché, qui est tout petit un peu l'hiver, là, au solstice, et puis qui est en pleine expansion dans son rayonnement le plus puissant au moment du solstice d'été.
Oui, tout à fait. Écoute, je trouve que tu introduis parfaitement bien la suite de ce qu'on avait envie de partager. Et c'est dans l'idée de comprendre la symbolique des solstices et des équinoxes en rapport, en analogie avec le cycle de la lunaison. Je vous rappelais dans le dernier épisode qu'un cycle de lunaison fonctionne un petit peu sur ce modèle. Donc, on part d'une nouvelle lune qui est une phase un petit peu de démarrage, mais aussi de léger flou artistique. Ça prend après le premier quartier jusqu'à la pleine lune, qui est la phase de pleine conscience. Dernier quartier et retour à la nouvelle lune. Et effectivement, en fait, l'année, avec ses solstices et ses équinoxes, on pourrait la découper aussi comme ça. Donc, ce solstice d'hiver, comme tu le disais, ça pourrait être cette nouvelle lune, donc ce démarrage de quelque chose. En fait, il y a quelque chose qui s'engramme dans l'énergie et qui va être déployé tout au long de l'année. C'est pour ça que nous, symboliquement, on aime bien voir ce solstice d'hiver comme le démarrage symbolique réel d'une année. Et donc, si le solstice d'hiver est la nouvelle lune de l'année, eh bien, le solstice d'été pourrait en être la pleine lune. Ce que je trouve intéressant dans cette analogie au niveau des cycles de lunaison,
c'est que les équinoxes, ça va être du coup nos phases de premier et dernier carré. Il ne faut pas oublier que les phases d'équinoxe, donc ces phases de carré, elles sont franchement intéressantes puisqu'on se rappelle que l'émergence de la conscience se fait par les carrés. Et donc, c'est des phases, les équinoxes seraient des phases de grande tension comme ça qui laissent émerger des compréhensions, parfois en passant par l'épreuve. Donc, l'équinoxe de printemps, qui tombe le 20 mars cette année, ça pourrait être comme un moment de crise, un moment où il nous est demandé de prendre peut-être la tangente, de prendre un point de bascule, finalement, et dans laquelle il nous est demandé de nous dégager du passé, de nous tourner résolument vers le renouveau pour s'élancer vers la pleine lune, vers une pleine conscience au moment du solstice d'été. Et puis du coup, dernier carré qui serait l'équinoxe d'automne, le carré décroissant, qui là sera plutôt une phase de choix, d'intégration, de positionnement, de tri. Hein, c'est la phase décroissante où avec l'automne, on va décliner comme ça vers l'hiver, vers l'intériorisation, etc., etc.
Oui, puis en fait, ça nous rappelle toujours que voilà, on est pris dans les cycles de lunaison, on est pris dans les cycles de l'année, puis on est pris dans les cycles des planètes plus grandes. Et en fait, on est toujours dans ce mouvement de multiples cycles qu'on suit, en fait. Et par moment, ça va être un cycle lunaire qui va nous impacter beaucoup plus. Par un autre moment, ça va être celui de l'année. À d'autres, c'est. Mais voilà, on est toujours dans ce mouvement-là, en fait, qui est comme une danse, quelque chose qui est en mouvement permanent et dans lequel on est pris. Et après, ce que je trouve intéressant aussi de rappeler, c'est que du coup, ça nous met beaucoup d'images de cercles fermés. De cercle, en fait, hein, parce qu'un cercle est forcément fermé, n'est-ce pas? Mais bon, voilà. Et en fait, moi, j'ai toujours cette image en tête et je la rappelle souvent quand je fais des cours ou quand je fais des interventions en astrologie. C'est l'idée du système solaire qui n'est pas justement d'arrêter de le voir comme un système héliocentré, mais de le voir avec la vision vraiment, ils appellent ça hélicoïdale, c'est-à-dire que le soleil avance, les planètes suivent, attiré par la gravité, mais du coup, l'image qui en ressort, c'est vraiment cette idée de spirale, en fait. Et je pense que c'est important de garder aussi ça en tête, parce qu'on n'est pas pris dans des petits cercles fermés comme ça qui s'ajustent, on est aussi dans vraiment toujours un mouvement d'évolution ou d'involution. Mais en tout cas, c'est toujours, c'est toujours cette idée de mouvement, quoi. C'est pas des cercles qui figent, c'est vraiment toujours cette idée de danse et de fluidité, de mouvement permanent.
Oui, puis chaque cycle, chaque cercle est imbriqué d'une manière ou d'une autre aux autres. Et effectivement, c'est vraiment, c'est une des grandes forces de l'astrologie, d'ailleurs, de réussir, je trouve, à pointer symboliquement cette horloge cosmique qui fait marcher l'humanité, mais qu'on porte aussi chacun en nous, quoi. Donc, c'est vrai que cette image, ne serait-ce que de regarder à l'échelle d'une année avec ces cycles connu depuis si longtemps des solstices et des équinoxes, ça fait quand même ce rappel, t'as raison. Alors peut-être une autre analogie qui serait intéressante à faire, c'est l'analogie avec la croix cardinale. Donc comme on vous l'a dit, ces quatre temps forts de l'année sont marqués par l'entrée du soleil à 0 degré Capricorne au moment du solstice d'hiver, à 0 degré Bélier au moment de l'équinoxe de printemps, à 0 degré Cancer au moment du solstice d'été et à 0 degré Balance au moment de l'équinoxe d'automne. Et donc, les quatre signes Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, ce sont des signes qui sont dits cardinaux, donc qui appartiennent à la croix cardinale. Et là, pour le coup, la symbolique va vachement nous intéresser. Alors, on vous a mis des représentations dans l'article, hein, comme toujours, vous pouvez regarder en même temps. Peut-être faire un petit rappel, avant toute chose, de ce que sont les croix en astrologie.
En fait, c'est les modes de manifestation dans l'incarnation, et du coup il y a différents modes, donc cardinal, fixe et mutable. Après, c'est une symbolique très très vaste et très simple en même temps, donc on pourrait en parler pendant des heures, mais pour moi vraiment cette idée de c'est le moment où ça s'incarne sur Terre, ça se met en mouvement, ça se met en matière, et du coup il y a différents modes pour entrer dans la matière et entrer en manifestation concrète, on pourrait dire matérielle. Et donc la première croix, c'est la croix cardinale, celle qui ouvre et qui lance le mouvement quelque part, hein, qui vient de dire « Allez, on y va !» Donc vraiment, c'est intéressant de se dire qu'on a des portes, sur notre terre, en tout cas, ça se joue avec cette croix cardinale qui dit allez, on y va, on impulse, hop, c'est parti quoi. Donc à chaque équinoxe, à chaque solstice, on a quelque chose de cet ordre de manifestation là qui est là.
Oui, c'est vrai que les croix, en quelque sorte, on pourrait dire que ça rend, c'est ça qui me vient, que ça rend le zodiaque assez concret. Hein, donc il y a trois croix, évidemment il y a un signe à chaque pointe de croix, trois fois quatre signes égale les 12 signes du zodiaque, évidemment. Et du coup, oui, c'est ça, hein, c'est la manière dont ça porte un mode de manifestation particulier. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans la croix, je sais pas si ça te fait ça, c'est que c'est vraiment la représentation même de la prise de conscience. On prend conscience au centre de la croix, tendue entre quatre expériences, entre une puissance verticale de l'esprit et une puissance horizontale de la matière. Et on pourrait dire qu'un individu va se construire sur l'horizontale des croix grâce aux énergies inconscientes qui viennent des verticales et qui vont chercher à se concrétiser. Donc hein, c'est pour ça que c'est un mode de manifestation et ça se joue vraiment entre l'horizontale et la verticale. Alors, c'est vrai que les croix fixes et mutables, c'est pas trop notre propos du jour. Mais elles sont passionnantes. Elles sont passionnantes aussi. Hein. Peut-être qu'il y aura l'occasion de refaire des épisodes par rapport à ça. Mais si on cible un petit peu sur la croix cardinale, qui est la première, comme tu disais, cette croix cardinale, on peut aussi l'appeler, moi j'aime beaucoup ce terme, on peut aussi l'appeler la croix du monde. C'est la croix du corps, de l'incarnation. Hein. C'est aussi pour ça que c'est la première. Et donc, ça porte les signes Bélier, Balance, Cancer, Capricorne, qui sont respectivement maîtrisés par Mars, Vénus, la Lune et Saturne. Et c'est vraiment une croix de puissance motrice, physique, presque animale en fait. Hein. En mots-clés, on pourrait dire c'est marcher, se lever, porter, agir, combattre, résister, construire. Il y a vraiment cette idée-là. Et moi, j'aime bien la voir aussi comme, on l'appelle aussi la croix du retour. C'est-à-dire que c'est la... Quelle réponse la Terre, donc l'humanité, nous, quelle réponse la Terre fait à l'énergie du ciel qui est descendue? Donc, c'est vraiment ce mode de manifestation du retour vers le ciel. Et je trouve ça très savoureux, finalement, en montant la trame du podcast. C'est ce que je m'étais dit. Je me dis, mais en fait, c'est dingue. Illumination. C'est dingue que du coup, cette croix qui marque les quatre temps forts de l'année soit cette croix qui finalement nous dit « Ok, allez, maintenant, direction vers des perspectives supérieures, vers des perspectives d'évolution, symboliquement vers le ciel. » C'est génial quand même sur le principe évolutif d'un être humain. Je me dis « Tiens, c'est vraiment pas anodin que ça soit rythmé de cette manière-là, en fait. »
Oui, carrément. Puis il y a vraiment l'idée que Lune Saturne, pour moi, il y a quand même vraiment cette idée d'être dans la forme physique, comment on s'incarne dans un corps, une matière. Et puis Mars Vénus, bon, on va quand même entrer dans le mouvement avec l'autre et dans des cycles un peu plus vastes. Bah ouais, c'est hop, j'ai l'énergie qui descend, je l'expérimente sur Terre, puis après je fais le retour, je re-questionne le ciel ou je le renvoie, pas le ciel, le cosmos, le divin, ce qu'on veut, mais en tout cas c'est là-haut, et on lui renvoie l'expérience qu'on a fait, on va poser une autre question, et puis pour moi la cardinale c'est ça quoi, c'est aussi cette mise en mouvement perpétuel dans le ok, ben là j'ai impulsé ça, et maintenant, et hop, et tac, ça revient, et donc c'est vrai que ça soit aussi le moment des portes, des passages. C'est bien fait quand même.
Bah oui, c'est quand même assez parfait. Si on regarde la représentation, alors on peut prendre plusieurs chemins de lecture en fait de cette croix cardinale. Donc il y a celle que tu viens de nous donner qui est le schéma de lecture entre la verticale et l'horizontale. Donc la verticale, c'est l'axe des solstices et l'horizontale, c'est l'axe des équinoxes. Il y a vraiment, dans cette verticale, Cancer, Capricorne, donc au moment du solstice d'hiver notamment, il nous est comme donné un potentiel d'information inconsciente, hein, puisque c'est vertical, inconsciente, qui va être des informations d'évolution, de structuration, pour aller trouver de nouvelles conditions de relation et de coopération qui vont devoir se manifester sur l'horizontale Bélier Balance, sur l'axe des équinoxes. Et l'idée de tout ça, c'est évidemment d'aller donner des nouvelles formes concrètes, institutionnelles, Et évidemment, ça ne se fait pas sans heurts. C'est pas une croix. La croix cardinale, ce n'est pas non plus une croix très bisounours. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Parce que cet axe bélier-balance de manifestation, c'est un axe qui est vraiment très moteur, qui peut presque être belliqueux. Sur cet axe-là, ce qui se passe, c'est presque... Il y a une recherche d'harmonie, d'équilibre dans la balance, mais c'est un peu qui veut la paix prépare la guerre quand même. Elle est quand même assez challengeante, cette croix. Et après, évidemment, on peut faire le chemin de carré en carré, tel que ça se fait dans une année. Donc, équinoxe de printemps, solstice d'été, équinoxe d'automne, solstice d'hiver. Et là, alors, comment tu vois, toi, ce déroulé énergétique du printemps à l'été, à l'automne, à l'hiver ?
Ce qui me vient, c'est que ça me fait forcément penser beaucoup à la symbolique du bélier, parce que bon, je viens d'y travailler dessus, et que là, on est sur l'équinoxe qui va se passer à 0 degré du bélier. Mais il y a vraiment cette idée qu'en fait, c'est un cycle des Mars, c'est parce qu'avant, il y en avait un autre. Comment le bélier, s'il peut émerger et si l'énergie peut jaillir comme ça et venir s'incarner, c'est parce qu'en fait, dans le poisson qui est juste avant, il y a toutes les eaux matricielles, originelles, universelles, plutôt d'ailleurs primordiales, dans lesquelles il y a tous les possibles. Et de là, l'énergie du bélier, elle peut hop, en jaillir et venir s'incarner. Et vraiment, moi, dans l'idée du cycle, il y a ça, c'est-à-dire que quand on va arriver en fin de cycle, il y a un peu tout ce qu'on a compris, consciemment ou pas, mais tout ce qui germe en nous de tout ce qui a été expérimenté dans le cycle d'avant qui va permettre un nouveau cycle de se mettre en route. Et finalement, c'est tout le temps ça, quoi. C'est pas... Comment dire, il n'y a pas un début, une fin, un début, une fin. C'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus fluide aussi que ça. Donc, ça me fait penser vraiment à ça. Pour moi, cette énergie d'équinoxe de printemps, c'est OK, là, en plus, dans le solstice d'hiver qui a commencé, il y a des énergies qui sont incarnées vraiment dans nos inconscients, qui sont mis à germer. L'équinoxe de printemps, ça commence à pouvoir émerger parce que là, il y a le bélier qui arrive et qui dit « Ok, on a tout ça là qui était à l'intérieur. » Et ben là, pouf, allez, comment je l'impulse dans le monde et comment ça peut jaillir de moi parce que ça macérait à l'intérieur de moi et à un moment, ça peut germer du coup.
C'est à l'image du terreau, finalement.
Oui, tout à fait.
Il y a quelque chose qui s'est mis en place et effectivement, à 0 degré bélier, c'est quelque chose qui commence à émerger, quoi. Et donc, au cours de l'année, évidemment, on vit ça, mais on le vit aussi finalement à chaque seconde en nous, hein, ce passage de l'indifférencié au différencié, etc. Tout s'active. Comme tu dis, c'est pas à l'heure près, à la date près, c'est quelque chose de fluide, hein. C'est une horloge qui est fluide et qui est subtile. Et donc, comment on fait au cours d'une année où on passe du 0 degré bélier au 0 degré cancer ? Qu'est-ce qui nous est demandé ? Donc, au 0 degré bélier, tu nous as dit, il y a quelque chose qui comme sort des profondeurs pour donner une nouvelle pousse, une nouvelle énergie. Et comment on passe au solstice d'été qui serait comme la pleine lune de l'année ?
Le cancer, donc la première maîtrise, c'est la lune, ce qui peut paraître assez paradoxal à un moment où c'est le soleil qui est au plus fort. Mais du coup, pour moi, il y a cette idée, pareil, d'équilibre aussi, soleil-lune, comme si il pouvait y avoir l'espèce de symbolique qu'on verrait, enfin, en tout cas que moi je trouve bien, sur la pleine conscience, soleil et lune, qui sont quelque part en équilibre. Et donc, pour moi, ça pourrait être conscient, inconscient, le soi, le moi, mais quelque chose où on est, OK, là, je suis là, tac, il y a ça qui a germé, j'ai commencé ça, donc là, ça se pose comme ça, hop, là, ça y est, ça rayonne. Voilà, mais pour moi, le solstice d'été, ça pourrait être ça. Parce que je trouve ça assez paradoxal que ça soit dans le cancer qu'il y ait un rayonnement. Pour moi, dans le cancer, il y a quand même une énergie assez intime, assez inconsciente aussi, qui est vachement plus intériorisée que ce qu'on pourrait imaginer d'un zénith du soleil. Comme ça, on pourrait dire ça serait le lion, mais non, c'est le cancer. Et qu'est-ce que ça vient nous dire ? C'est qu'il y a aussi la lune qui est là. Et donc, peut-être aussi, ça éclaire notre inconscience, ça éclaire des choses de nous, ça met de la lumière là où peut-être il y avait un peu des ombres et et du non-conscient.
Du coup, tu vois, ce qui me vient, c'est que si on considère que le solstice d'été serait un peu la phase de pleine conscience de l'année, et ben en fait, à 0 degré cancer, il nous est demandé de lâcher l'ego et le feu du bélier pour re-rentrer dans quelque chose de beaucoup plus intuitif. Hein, on l'a vu sur le schéma, c'est sur le cancer et sur l'axe vertical. C'est donc des énergies inconscientes. Et finalement, c'est comme si ce moment de l'année, il nous était demandé voilà, de laisser... que cette pleine conscience, elle vienne aussi par cette intuition et par cette sécurité trouvée dans la matière, et on laisse canaliser quelque chose avant effectivement de pouvoir prendre cette tension en carré, cette tangente vers la balance. Parce que pour le coup, le passage de cancer à balance, donc le passage du solstice d'été à l'équinoxe d'automne, bah, c'est quand même assez challengeant parce que ça veut dire qu'à un moment, il va falloir quitter nos petites sécurités et les intégrations qu'on a faites pour aller rencontrer l'autre, faire loi, faire équilibre avec l'autre. Donc, bon, finalement, peut-être que tu vois, cette phase de solstice d'été, de pleine conscience, elle se joue à quelque chose d'intuitif, de métaphorique, etc., etc.
Et puis, ce qui est intéressant aussi sur le solstice d'été, c'est que quand, en termes de tradition, bon, après, je parle de ce que je connais, je ne sais pas pour dans le monde entier, mais il y avait quand même l'idée des feux dans le solstice d'hiver où il y avait des traditions où il fallait garder absolument le feu allumé toute la nuit parce qu'il y avait cette idée que le soleil allait comme ça pouvoir remonter. Enfin, en tout cas, il y avait une espèce de superstition, croyance ou rituel autour de ça. Et on retrouve les feux de la Saint-Jean au solstice d'été où il y a des grands feux et il faut sauter par-dessus. Donc, on a quelque chose autour du feu aussi, qui, bon, pourtant, n'est pas du tout dans le cancer capricorne, mais qui est la symbolique plutôt solaire qu'on retrouve là. Et bon, c'est en tout cas, là, dans les images qui me venaient, j'avais ça sur, ah ouais, là, il y a le feu d'hiver où on va se réfugier contre, on espère qu'il va tenir, et le feu d'été qui est gigantesque, il faut réussir à sauter par-dessus, comme pour se prouver qu'on peut y arriver et qu'on est suffisamment fort. Et il y a peut-être ça aussi de prendre la force de ce soleil qui est fort, de cette lune, pour prendre la force d'aller, comme tu disais, dans bah là je vais devoir rentrer dans la relation à l'autre, dans qu'est-ce que j'en fais de tout ce que j'ai compris là, et peut-être il faut prendre cette force là à ce moment là
C'est intéressant que tu rappelles cette idée des feux de la Saint-Jean où il faut sauter par-dessus le feu. Ça me ramène au mythe d'Icare, où il y a cette proximité avec le soleil, c'est oui, je veux faire des ailes pour sauter par-dessus le feu, hein, on pourrait le dire comme ça, mais dans ce mythe d'Icare, on se rappelle qu'il y a le conseil du père qui lui dit, mais tu vas surtout pas trop près du soleil. Donc finalement, je me dis, tiens, ce conseil parental qui pourrait être très cancer, de oui, approche-toi du soleil, va chercher ce que tu veux, mais va pas te brûler les ailes non plus. C'est marrant que ce soit ce mythe-là qui descende.
Ah, c'est peut-être effectivement que ça fait partie de la verticale, c'est-à-dire que c'est Capricorne Cancer, c'est vrai qu'il y a quand même cette notion des archétypes parentaux qui viennent donner une base et puis protéger pour qu'on puisse aller dans le monde. Et à un niveau plus vaste, c'est des archétypes plus grands, du sacré, des choses qui voilà, viennent nous donner conseil, nous protéger. Peut-être que ça peut être des moments, le solstice d'été, où on peut peut-être aller dormir dehors et prendre les infos qui nous viennent des étoiles.
Tu as raison de rappeler que la symbolique parentale est très forte, hein, parce que Saturne donc, qui est au milieu du ciel de cette croix cardinale, représente le père, et la lune qui est au pied de la croix cardinale représente la mère. Donc c'est vrai que sur un autre plan, si on sort de la lecture de ce qui se passe dans une année, la croix cardinale, c'est la croix de l'élévation et de comment on se construit entre les archétypes du père et de la mère, et comment on se construit soit en bélier, vers l'autre, en balance. Donc oui, effectivement, ces archétypes-là sont très forts. Et d'ailleurs, donc en balance, si on veut reprendre notre chemin de carré, là, donc on est arrivé au solstice d'été à 0 degré cancer, et il faut qu'on se projette vers l'autre en balance au moment de l'équinoxe d'automne. La balance, c'est un signe où effectivement on va chercher l'équilibre, la justice, la justesse, l'harmonie, etc. Mais ça reste un signe masculin. Et donc, oui, ça se fait pas sans confrontation, on peut dire.
Dans la balance, avant de trouver la paix en soi et de réunir, de faire la paix, de réunir, de relier avec l'autre et en soi, on va d'abord passer par tout ce qui n'est pas apaisé, tout ce qui n'est pas relié, tout ce qui n'est pas en lien. Et oui. Donc, après, c'est des histoires de degré de conscience, mais forcément, c'est le moment où on va quand même se retrouver confronté à l'autre, oui. Quel qu'il soit en nous, à l'extérieur.
Oui, c'est ça. Oui, c'est un équilibre entre soi et soi, entre soi et l'autre, etc. Mais c'est un moment qui est assez challengeant. Et d'ailleurs, souvent, on le voit, les gens vivent cet équinoxe d'automne de manière un petit peu particulière. Il y a un côté de « Oh, je renonce à l'été pour aller vers autre chose. Bah, » des fois, la confrontation à l'autre nous fait un petit peu ça. C'est « Oh, je dois renoncer de quelque chose de moi pour aller vers l'autre, en fait. » Oui, c'est un passage qui est quand même assez singulier. Mais de ce moment d'équinoxe d'automne à 0 degré balance, après, pareil, il nous faut prendre la tangente vers le dernier carré de la cardinale, donc vers le solstice d'hiver qui va réenclencher une année. Et le solstice, alors on en a déjà parlé, hein, on a dit que c'était le moment où les nuits étaient maximales, mais c'est le point de bascule où le soleil va recommencer à croître. Et en Capricorne, à ce moment-là, l'humain arrive au terme d'une année, au début d'une nouvelle. Il y a quelque chose qui est édifié, plus ou moins parfaitement selon l'expérience de l'année, etc. Mais admettons que voilà, il y a quelque chose d'édifié, de posé, de structuré. Mais c'est aussi le moment où il nous est demandé de renoncer à toutes ces formes, de mourir en fait à un certain état pour réenclencher quelque chose. Donc, c'est un moment qui est... C'est pas surprenant, hein. Vraiment, je trouve que c'était un des moments de l'année les plus célébrés et les plus ritualisés par toutes les cultures, quoi. Et d'ailleurs, on remarque que la date, entre guillemets, de naissance donnée du Christ, on est quand même pas loin.
Ça me fait penser à justement toute cette histoire autour de l'Église catholique et tout ça, où beaucoup de fêtes ont été changées, où beaucoup de... En fait, tout au moment de l'Inquisition, je dirais qu'on nous a coupé de beaucoup de choses, en tout cas dans nos pays. Et que pour moi, cette date qui a été mise, par exemple, du 25 décembre, c'est pas anodin que c'était le 25 et pas le 21. Alors, je dis pas que c'est des choses pensées pour nous couper et tout ça, mais il y a quelque chose qui s'est mis en place là, qui est pas anodin dans ce qu'on comprend et ce qu'on conçoit de, et dans les rituels qu'on a, dans ce qui fait qu'on se relie au sacré de notre existence. Il y a quelque chose, à mon sens, qui a fait un peu coupure, alors pour nous amener vers d'autres compréhensions, certainement, mais moi, il me semble que je ressens les gens avec un besoin de retrouver cette conscience du sacré, du rituel, qui n'est pas religieux, et où, du coup, on retrouve aussi la symbolique du « oui, on a eu quelqu'un de tellement puissant dans un amour et dans une nouvelle forme de pensée qu'une religion s'est construite dessus, même, voire même plusieurs ». Mais sortons de ça pour retrouver l'essentiel de ce qu'il disait, de tout ce que toutes les religions disent. Et je sais pas pourquoi, mais pour moi, retrouver la symbolique de ces dates et ce sacré-là, bah, c'est par là qu'on passe aussi, quoi. Comme si on avait besoin d'en sortir pour s'y remettre et se relier à ça. Mmh. Oui. Et j'ai toujours, moi, une sensation particulière ces jours-là. J'aime ces jours-là, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose en moi qui, comme si je pouvais me connecter un peu plus à la Terre, à son mouvement qui évidemment est constant, mais que tout d'un coup, ah là c'est le moment de l'équilibre, ah bah là on bascule comme ça et c'est super beau.
Bien sûr. Oui, et puis de toute manière, c'est cette synchronicité qu'on a à cette horloge cosmique, elle est cellulaire. Hein. Et puis, moi, je suis très convaincue que de toute manière, ça fait partie de la conscience collective, qu'effectivement, à un moment, on a pu l'oublier ou prendre des autres modes de lecture, par exemple, les fêtes chrétiennes. Pourquoi pas, hein, y a aucun mal à ça. Mais que par contre, le sens profond, symbolique, spirituel, etc., de ces moments forts, on le porte de toute manière dans nos cellules. Et comme toi, c'est pas rare que je puisse voir des patients à ces moments-là me dire tiens, je sans trop savoir comment l'exprimer, mais il se passe un truc, c'est important, il se passe quelque chose, quoi. Et bon, de toute manière, ça reste important puisque c'est nos passages de saison. Donc, on est toujours très content. Là, au 20 mars, on va bien sentir que les gens vont nous dire « Oui, c'est l'énergie du printemps, ça revient !» Mais le voir ne serait-ce qu'au rythme des saisons, c'est pas anodin, quoi.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi toujours cette bascule avec l'autre hémisphère. Donc, voilà, quand l'un est à un endroit, l'autre est à l'opposé. Et du coup, c'est vraiment toujours des jeux d'équilibre. Et là, on retrouve la balance aussi.
Complètement.
Toujours le jeu de je crée l'équilibre, je cherche l'équilibre en tout cas.
Alors après, si on veut rattacher là, ces quatre temps forts de l'année à la petite histoire du zodiaque que je vous racontais dans, ça devait être l'épisode 4, je crois. Si on veut simplifier, on peut aussi le voir comme, on pourrait se dire qu'en bélier, à l'équinoxe de printemps, on est ce petit fœtus qui s'engage résolument dans la naissance vers la lumière, qu'après on est à son ressenti en tant qu'enfant dans sa famille humaine en cancer, qui va nous imprégner aussi de ses conditionnements, bien entendu, qu'après on rencontre l'autre dans la balance avec qui on se confronte plus ou moins violemment en quête de cette harmonie intérieure et extérieure, et qu'on est, comme on le disait, complètement édifié en capricorne, qu'on y meurt avant de pouvoir renaître dans le bélier. Voilà, ça pourrait être une manière de voir les choses, ne serait-ce qu'avec les signes, quoi.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais ce que tu dis me semble super intéressant là-dessus, parce que en cancer, symboliquement, je nais, en capricorne, je meurs, et en bélier-balance, je rentre dans la relation à l'autre. Donc, il y a vraiment aussi toute cette symbolique-là dans la cardinale, quoi. Parce qu'entrer dans la relation à l'autre, c'est naître à soi-même et à l'autre. Et comme tu disais, c'est renoncer. Donc, c'est aussi mourir à soi pour accepter la relation.
C'est clair. Ah, c'est intéressant de voir cette symbolique de la cardinale et du coup, se rendre compte qu'une année nous structure en fait très fortement et nous demande comme ça d'aller vraiment bâtir quelque chose avec l'autre, de nous édifier nous-mêmes, de sortir des conditionnements pour faire... justice, équilibre, c'est quand même très riche de symbolique, et de le voir que chaque année, en fait, chaque année, ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. La perspective évolutive est quand même très, très, très chouette, quoi. Donc maintenant, si on veut faire on va essayer de faire un petit zoom sur le premier archétype du printemps, qui est le bélier, et qu'on appelle l'ascendant de cette croix cardinale. Alors, le bélier, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'équinoxe de printemps, on l'a dit, donc c'est le premier carré, une phase de tension qui exige un renouveau par rapport à la symbolique d'une année. En revanche, c'est le premier signe du zodiaque, donc certains vont pouvoir défendre, à juste titre d'ailleurs, que c'est le début de l'année zodiacale. Voilà. Donc il y a une espèce de double renouveau et prise de mouvement à ce moment-là avec ce signe du bélier. Alors pour les basiques en quelque sorte, on rappelle que le bélier est un signe de feu et donc un signe cardinal, on vous l'a dit. Le feu, c'est le premier élément alchimique, c'est un élément moteur, un élément d'élan, de création, de nouveau départ. Ce qui me fait penser d'ailleurs que dans la croix dont on vient de vous parler, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà remarqué, mais on suit l'ordre alchimique des éléments. Hein, donc, bélier, feu, créatif, puis l'eau procréative, puis l'air, balance, qui projette quelque chose, qui projette des idées, et enfin, la terre du Capricorne qui va concrétiser. Donc, encore une fois, ça appuie cette idée que dans la croix, il y a quand même un processus alchimique qui est absolument parfait. Donc, dans le bélier, à un premier niveau de compréhension, on va se dire, ce que tu as déjà évoqué, hein, que c'est l'énergie du bélier, c'est une énergie d'élan, de dynamisme, qui peut être éventuellement belliqueux, un peu agressif, pourquoi pas, et qui en tout cas s'extériorise avec force dans la vie, qui propulse l'énergie vers l'extérieur, vers la manifestation. Si on veut reprendre l'image bien cliché du bélier, on fonce droit devant, la tête la première. Mais en même temps, c'est ce qui est essentiel pour naître à quelque chose. On comprend alors pourquoi il ouvre l'énergie du printemps. C'est-à-dire qu'après les longs mois d'hiver et d'intériorisation, on a besoin de l'énergie du bélier pour redémarrer un autre cycle. Tout comme les jeunes pousses et les jeunes fleurs, elles ressortent de terre, elles ont macéré dans du terreau, comme tu disais tout à l'heure. Elles ont sommeillé, elles ont été alchimisées, et là, elles ressortent avec l'énergie du bélier. Donc, maintenant qu'on enregistre, on est encore dans l'énergie du poisson pour quelques jours. On est dans ce signe que t'exprimais, hein, quelque chose où ce qui est indifférencié, où ça inclut tout, ça recycle tout, en profondeur, à l'infini et l'au-delà. Et on est dans une espèce de marée, quoi, dans quelque chose d'indifférencié et d'universel. Mais du coup, à 0 degré bélier, le 20 mars, on pourra sentir comme un changement sensible, bon, qui sera progressif aussi, évidemment, de l'énergie, quelque chose qui va chercher à émerger de l'indifférencié pour se tendre vers l'extérieur et commencer à manifester. Donc, en fait, ça rejoint ce que tu exprimais, le bélier, ça nous fait sortir de cette mer vaste et duelle des poissons pour prendre une direction résolument. Voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu en préparant l'épisode, de regarder le symbole sabian du 0 degré bélier, du 1 degré bélier. Je ne sais pas si tu l'avais déjà regardé.
J'avais déjà dû le regarder quand il y avait des aspects qui se faisaient dessus, des conjonctions, mais là, comme ça, je n'aurais pas pensé à faire le lien avec
ce moment d'équinoxe. Tu vas me dire ce que tu en penses, mais alors, ce moment de l'équinoxe, il est donc marqué par cette symbolique. Donc, ça nous parle de quelque chose, donc d'un processus déjà de différenciation. On sort de l'indifférencié des poissons, on entre dans une différenciation, une manifestation. Ça nous parle d'une immersion de nouvelles formes, de la conscience qui voit le jour. Ça nous dit que la conscience doit se comporter en sujet, en ayant sa place et sa fonction. Il y a quelque chose qui s'extrait de l'océan. Il émerge, on émerge hors d'une matrice, hein, hors d'un moule prédéfini. Et on se tend comme ça, la jeune pousse sort de la graine et voilà, il se passe quelque chose. Ça nous parle du désir d'être.
C'est tout à fait, le bélier est plus vaste que ça, mais il y a quand même vraiment cette idée de symbolique. En plus, on a le symbole là, avec ces deux, comment on pourrait dire, ces deux demi-cercles qui redescendent vers le sol. Et pour moi, c'est vraiment l'attraction de l'âme, de l'esprit, de tout ce qui est subtil vers la terre et vers la vie, l'incarnation. Et donc, quelque part, il y a quand même un élan. On est aussi attiré vers quelque chose, mais on a l'impulsion à un moment de, on descend, on s'incarne. Après, on regrette, mais sur le moment, on a suivi l'impulsion.
Je me faisais aussi une réflexion. Je ne sais pas si tu avais déjà fait le rapprochement par rapport à ça, mais on évoquait les fêtes religieuses qui ont été reprises par la religion catholique, etc. Mais alors, en sortant du côté religieux, juste en prenant la symbolique spirituelle chrétienne, le carême est un moment très intéressant puisque c'est la fameuse traversée du désert et c'est à cheval entre les poissons et le bélier, en fait. Donc, avec le carême, on est à cheval entre les saisons d'hiver et du printemps. Il y a cette traversée du désert dont on sort à Pâques, donc dans le signe du bélier. Ce sera le 17 avril cette année, d'ailleurs, un dimanche, bien sûr, jour du soleil. Mais c'est intéressant qu'il y ait cette idée de traversée du désert pour faire le passage vers autre chose. Quel trésor on va réussir à sortir, en fait,
de cette... C'est vrai qu'on retrouve cette symbolique, hein, poisson-bélier. Je me mets en lien avec le tout, que ce soit à l'intérieur ou ce que je peux ressentir qui vient d'en haut. Et puis de ça va pouvoir émerger la nouvelle impulsion vers un nouveau cycle, ou en tout cas vers qu'est-ce qui s'incarne de tout ça, quoi. Qu'est-ce qui vient se matérialiser concrètement. C'est vraiment un signe qui a une symbolique bien plus intéressante, bon, comme tous, que ce qu'on peut lire dans des choses assez classiques qui sont un petit peu, enfin pas qu'un petit peu, hein, qui sont extrêmement, comment on dit quand ça...
Ça peut être réducteur en fait, c'est-à-dire que...
Oui, voilà, merci, c'est réducteur.
Ça pourrait. Oui, alors que c'est beaucoup plus profond. Et c'est vrai que j'aime bien le travail que t'as entamé, qui est un très gros boulot, c'est-à-dire de rendre un petit peu, enfin moi je le vois comme ça, c'est un peu rendre ses lettres de noblesse aussi à chaque archétype en le lisant au travers de trois niveaux de conscience, au travers des trois niveaux de maîtrise. Hein, ça, c'est purement de l'astrologie ésotérique que propose Alice Bellet notamment. Et il y a comme trois niveaux de subtilité dans un seul et même signe. Donc, ce dont je viens de vous parler par rapport au bélier, on pourrait dire que c'est un peu le premier niveau du bélier. C'est son niveau matière-personnalité, c'est sa maîtrise classique ou exotérique de Mars. Mais après, on a deux autres niveaux de conscience de ce signe, un niveau d'âme, deuxième maîtrise, et un niveau sacré de l'esprit, troisième niveau. Et ça, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu, puisque tu viens de monter tout le cours là-dessus.
Oui, c'est, en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que déjà, pour moi, quand j'ai découvert l'astrologie d'Alice Bailey avec ces maîtrises-là, ça a été vraiment une ouverture et quelque chose de bien plus intéressant, de plus subtil, de plus global pour la lecture des signes. Et en même temps, lire chaque signe à travers ces trois maîtrises, c'est ce que j'explique un peu dans la vidéo, c'est canaliser une énergie qui est sinon extrêmement vaste et dans laquelle on peut se perdre, puisqu'un signe, je rappelle que c'est une constellation. Donc une constellation, c'est gigantesque. Donc les énergies qu'elle déploie, elles sont, à mon avis, extrêmement difficiles à percevoir dans leur globalité. En fait, à un moment, ça descend, on s'incarne, on en capte un petit bout, mais si on va essayer de capter l'intégralité de l'archétype, on peut se perdre. Si on passe par les maîtrises, en fait, c'est comme des marches d'escalier qui nous accompagnent dans la compréhension de cet archétype et ce que ça peut nous évoquer dans la lecture d'un thème astral, mais aussi dans une compréhension des lois cosmiques, des lois universelles, des lois spirituelles et dans le fonctionnement du vivant, en fait. Et c'est vraiment, comme tu disais, il y a Mars en maîtrise exotérique, après on a Mercure puis Uranus. Et finalement, en faisant le cours, je me suis rendu compte que chacun des paliers a besoin des autres, en fait. Donc, c'est vraiment l'idée d'un escalier. S'il manque une marche, on peut y arriver, mais c'est plus compliqué. Tandis que là, vraiment, tout est fait pour que petit à petit, on arrive aux maîtrises hiérarchiques, maîtrises sacrées. Et à mon avis aussi, plus on avance, puisqu'on est quand même sur une transition. On vit un changement d'air, donc c'est un peu une période un peu bancale et un peu longue de notre point de vue, je pense, mais on est dedans. Et plus on va aller vers l'ère du Verseau, à mon avis, plus les maîtrises hiérarchiques sacrées, elles vont être comprises, intégrées et elles vont nous ouvrir d'autres portes, en fait. Donc c'est vraiment intéressant d'aller quand même explorer de ce point de vue-là. Et personnellement, moi, dans ma pratique de l'astrologie, quand j'ai commencé à travailler avec ça, ça a vraiment ouvert mes lectures de thèmes aussi.
Et du coup, qu'est-ce qui pourrait contribuer pour les gens, là, justement, où on va bientôt passer, je publierai l'épisode le 21 mars, donc tu vois, on sera tout juste passé dans l'énergie du bélier. Qu'est-ce qui pourrait contribuer pour les gens en termes de compréhension de cette énergie? Comment est-ce qu'on peut, peut-être chacun déjà individuellement, en fait, se saisir un tout petit peu des différences de compréhension de cette énergie, comment on pourrait la faire travailler en nous? Est-ce que tu vois des pistes, alors sans dévoiler tout le cours évidemment, mais quelles pistes en fait on pourrait avoir déjà pour ces fameux paliers de l'énergie du bélier?
Déjà, il y a un exercice qui est tout simple à faire, que je donne dans le cours, mais que je donne aussi tout le temps, c'est de se mettre en relation de façon intuitive dans des méditations avec chaque maître. Alors, tout ça à la fois, c'est peut-être un peu trop, mais de poser l'intention à un moment donné, je pose l'intention de me relier par exemple à Mars, maître exotérique du bélier, de bien poser la phrase en entier, parce que Mars, il est aussi sur d'autres maîtrises, donc je ressens le besoin de me relier à cette qu'est-ce qu'est cette énergie-là, qu'est-ce que ce maître a à me dire. Et déjà, on peut avoir des images, des sensations, où on peut se dire aussi qu'on se relie à cette énergie pour la journée, puis que le soir, on se refait une petite méditation comme un petit bilan. Donc ça, c'est intéressant, ça permet juste de sentir comment ça résonne en soi. Et puis, juste pour moi, le bélier, c'est vraiment cette histoire de « je descends dans l'incarnation ». J'impulse, je m'incarne. Donc avec Mars, on est vraiment sur « je rentre, hop, tiens, j'ai un corps ». Désir, impulsion, tout ça. Mercure, on va plus être sur « mais oui, du coup, quand je me suis incarnée, j'ai descendu tous ces plans, je suis passée là, et là, ça repasse comme ça », et vraiment une compréhension, comme la capacité médiumnique à traverser un peu ces plans et à voir le cheminement qu'on y fait. Tandis qu'Uranus, on est vraiment sur, quelque part, on a compris qu'on avait un corps, on a compris le passage, pouf, je suis, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, qui est bien plus complexe que ça et que j'essaie de développer là dans le cours, mais c'est comme une étape à chaque fois de c'est au-delà de la compréhension, d'expérimentation, on pourrait dire, de ce que c'est que de descendre dans la matière pour s'incarner. C'est quoi cette impulsion créative qui fait que je descends et pouf, je prends un corps, quoi. Et ensuite, quand je suis dans ce corps, qu'est-ce que j'en fais? Et je trouve que le bélier, c'est beaucoup ça. Pour les béliers, on travaille ça. Ou alors, on le connaît déjà tellement bien qu'on est là-dedans et on va le déployer vers les autres. Ça dépend aussi d'où on en est et ce qui se passe.
Ah, j'aime bien ce petit exercice. Et tu vois, en t'écoutant parler, je me relis à Mars, par exemple, maître exotérique du bélier. Et c'est marrant parce que effectivement, c'est un très bon exercice parce que tout de suite, il y a des trucs qui descendent. Et moi, immédiatement, ça m'a dit « ose ».
Ouais, mais c'est ça.
C'est marrant. C'est drôle, hein.
Et l'un des mots-clés.
Ouais, c'est fort.
Qui m'est venu à moi après, voilà, mais c'est rigolo. Hein.
Et Mercure, oui, moi, le bélier maîtrisé par Mercure, ça me donne vraiment cette impression. Bon, c'est très simple, hein, c'est un petit peu réduit ce que je vais dire, mais médite ton action, pose une action en conscience, quoi. Et avec Uranus, c'est vrai que ça me résonne bien ce que tu as exprimé, c'est-à-dire qu'on arrive à un autre niveau du... Parce que le bélier, sa phrase clé, ça pourrait être « je suis ». Et effectivement, sous la maîtrise d'Uranus, c'est un « je suis au milieu de ma famille d'âme, je suis relié entre la terre et le ciel ». Enfin, je ne sais pas si ça va faire ça aux auditeurs, mais en tout cas, on sent bien que sous la maîtrise d'Uranus, c'est... Ok. Et puis, ça me donne aussi un petit goût de ce fameux bélier qui, au plus haut niveau, en quelque sorte, guide. Moïse est un bon archétype, hein, d'ailleurs, du bélier.
Oui, tout à fait.
Ça me redescend ce côté bâton de berger et go, c'est par là.
Bah, c'est j'ouvre une nouvelle ère, hein. J'ouvre et un nouveau monde. Et les enfants qui sont nés à partir de, je crois que c'est 2011, peut-être fin 2011, ou je ne sais plus exactement, 2011 à 2018, ils ont Uranus en bélier. Donc, on pourrait dire que ce sont les... Eux, ils viennent incarner quelque chose de totalement nouveau. Ils le font. Enfin, je veux dire, ils se posent pas... On est au-delà du Capricorne qui se pose pas la question et du Verseau qui cherche à retrouver quelque chose. Mmh. Uranus Bélier, il incarne direct, quoi. C'est ouais. Bon, on y est, en fait.
Oui, c'est des enfants qui ont une aptitude à mener, à s'entraîner dans la vie qui est extrêmement, extrêmement puissante. Hein, on le sent bien. Hein.
Mmh, oui.
Bon, bah écoute, grand merci Marilène de ta contribution et d'être
merci venue. Merci à toi, Faustine.
Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que cela aura pu contribuer à ouvrir la réflexion et les consciences sur ces énergies qui rythment nos années. N'hésitez pas en tout cas à profiter de l'équinoxe pour poser de belles intentions. Pour rappel, le nouveau cycle Neptune-Jupiter de début avril va réinitialiser nos perspectives en termes d'idéal pour les 13 ans à venir. Donc là aussi, ça peut être une belle occasion de repositionner nos rêves, nos intentions et idéaux à rendre concrets. C'est quelque chose que nous pourrons aussi faire par les urnes, symboliquement et concrètement, pourquoi pas. En attendant de se retrouver au prochain épisode, n'hésitez pas à poser vos questions à l'adresse mail inscrite dans le descriptif ou par Instagram. Il me reste à vous souhaiter un très beau passage au printemps. Puisse-t-il nous apporter discernement, union, amour et paix. Je vous souhaite de tout cœur un beau chemin de conscience entre la terre et le ciel. À bientôt.